Pourquoi Afrique ?
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 16 août 2016, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson, tout d'abord les titres.
En République démocratique du Congo, la colère reste vive après les derniers massacres perpétrés par les rebelles ADF à Beni.
Au Congo-Brazzaville, reprise ce matin de l'audience pour la remise en liberté provisoire du général Mokoko, inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État.
En Mauritanie, 13 militants de l'ONG anti-esclavagiste IRA, jugés à Nouakchott, disent avoir été torturés pendant leur détention.
Les Peshmerga resserrent l'étau autour de Mossoul, le dernier fief majeur de l'organisation djihadiste État islamique en Irak.
Présidentielle américaine, le candidat républicain Donald Trump a présenté hier les grandes lignes de son plan de lutte contre l'idéologie de l'islam radical.
Et ne manquez pas notre journal des Jeux Olympiques ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
En RDC, le massacre de plusieurs dizaines de civils dans la nuit de samedi à dimanche à Beni, dans l'est du pays, a attisé hier la contestation contre le président Joseph Kabila, alimentant un climat politique déjà tendu à quelques mois de la fin de son mandat officiel. Précision de Jean-Roger Bion.
La société civile parle de 51 personnes tuées à la machette, un bilan contesté par les autorités, dont le porte-parole Lambert Mende, qui a donné un bilan officiel de 36 morts. Et le maire de Beni, lui, signalait 42 victimes. M. Kabila était lundi à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, théâtre de la tragédie et où se tenait une réunion de sécurité. Le chef de l'État congolais devait ensuite se rendre à Beni, tout comme son premier ministre Augustin Matata Ponyo, accompagné d'une délégation d'officiers militaires. Lundi, au premier des trois jours de deuil national décrété par le gouvernement, les Congolais se montraient amers. Dès dimanche, une centaine d'habitants de Beni avaient exprimé leur colère en scandant des slogans hostiles au gouvernement et au président Kabila, qui avait promis 72 heures plus tôt de tout mettre en œuvre pour imposer la paix et la sécurité à Beni. Côté politique, l'ambiance n'était pas meilleure lundi. Certains opposants réclamant la démission du pouvoir en place. Le Front Citoyen 2016, une plateforme opposée à tout report de la présidentielle censée se tenir cette année, mais devenue autrement improbable, note avec regret que le président Kabila et son gouvernement ont totalement échoué à ramener la paix dans cette région. Par conséquent, conclut-il, le chef de l'État doit démissionner.
L'audience pour la remise en liberté provisoire du général Mokoko, inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État, se poursuit ce matin à Brazzaville. Elle s'était ouverte mardi dernier, mais les juges avaient préféré la reporter avant de décider. Les détails avec Nanit Talani.
En principe, les juges doivent se prononcer aujourd'hui sur le maintien en prison ou pas du général Jean-Marie Michel Mokoko. Ses avocats, qui dénoncent une injustice sur fond d'un dossier politique, vont encore introduire une requête pour sa mise en liberté provisoire. Déjà jeudi dernier, maître Yvan-Éric Ibuanga s'était offusqué en ces termes. « Notre client n'a plus sa place à la maison d'arrêt au regard des éléments du dossier. Il n'y a pas de raison qu'il soit maintenu en détention préventive. Il peut comparaître librement. » Le prévenu est accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et de détention illégale d'armes et munitions de guerre. Les plaidoiries des avocats et le réquisitoire du procureur devraient aussi être entendus aujourd'hui. Si les défenseurs du général vont indubitablement plaider sa relaxe, le réquisitoire du procureur pourrait s'avérer sévère. On ne sait pas si le prévenu qui était absent à l'audience de mardi dernier sera présent à celle d'aujourd'hui ou si l'audience se déroulera encore à huis clos.
Au Nigeria, l'armée a annoncé hier avoir tué 16 rebelles de Boko Haram et repoussé dimanche une attaque du groupe armé islamiste dans la ville garnison de Kangarwa, dans le nord-est du pays. Un officier et 11 soldats ont été blessés, a dit le porte-parole de l'armée. Selon lui, une cache d'armes et de munitions des rebelles a par ailleurs été découverte au cours de cette opération.
En Mauritanie, 13 militants de l'ONG anti-esclavagiste IRA, arrêtés et jugés à Nouakchott pour usage de la violence, ont déclaré hier devant la cour avoir été torturés pendant leur détention. C'est ce que rapporte un de leurs avocats, maître Brahim Ould Ebeti. Les 13 militants en cours de jugement ont été arrêtés entre fin juin et début juillet pour leur implication présumée dans une manifestation violente survenue lors du déplacement forcé par les autorités le 29 juin d'habitants du bidonville de Ksar à Nouakchott. Un véhicule de la police avait été incendié et plusieurs policiers blessés.
Démarré il y a à peine une semaine, les pourparlers entre Khartoum et les groupes rebelles du Soudan ont échoué. Éric Manirakiza.
Ibrahim Mahmoud, principal négociateur de Khartoum, impute l'échec des discussions au manque de sérieux des groupes armés. Pour le mouvement rebelle du Kordofan du Sud, Khartoum ne veut pas la paix, mais campe sur ses positions sans faire de concessions. La semaine dernière, le mouvement pour la justice et l'égalité qui opère au Darfour, le SPLM Nord, très actif au Kordofan du Sud, le parti Ouma, principal parti d'opposition, et le gouvernement soudanais avaient entamé des discussions à Addis Abeba. Les participants s'étaient mis d'accord sur une feuille de route vers un cessez-le-feu et la réconciliation politique sous l'égide de l'Union africaine. Les rebelles ont exigé qu'en plus du cessez-le-feu, un pont aérien soit lancé depuis l'Éthiopie, le Soudan du Sud et le Kenya pour livrer de l'aide humanitaire vers le Kordofan du Sud et la province du Nil Bleu, une demande qui a été rejetée en bloc par la délégation soudanaise.
En Zambie, le président Edgar Lungu a été réélu hier au premier tour de l'élection présidentielle devant son principal rival, Hakainde Hichilema. Ce dernier va contester les résultats devant la justice après une campagne tendue. Un cadre de son parti assure avoir des preuves d'une manipulation des chiffres par le parti au pouvoir. Les États-Unis félicitent M. Lungu pour sa réélection et saluent l'esprit démocratique des Zambiens qui s'est exprimé dans le vote du 11 août, a déclaré Elisabeth Trudeau, porte-parole du département d'État américain.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la ville de Milwaukee a imposé un couvre-feu à partir de 22 heures ce lundi. Une décision prise après deux nuits consécutives de violence dans un quartier noir de cette ville du Wisconsin. Ces émeutes ont éclaté après la mort samedi dernier d'un Africain-Américain armé, tué par la police. Des détails avec Jacques Aristide.
Le maire de Milwaukee a déclaré que ce couvre-feu allait être beaucoup plus strict dans le cas des adolescents. Tom Barrett a par ailleurs renouvelé son appel aux autorités pour qu'elles rendent publique une vidéo montrant que Sylvain Smith, l'homme de 23 ans qui a été abattu, était armé et que la force utilisée contre lui était justifiée. L'agent de police qui l'a tué, lui-même africain-américain, a été placé en congé administratif. D'après le chef de la police, Edward Flynn, 7 policiers ont été blessés et 11 personnes arrêtées. Les événements généré dans la soirée de samedi quand la police a tenté de disperser au moins 200 manifestants. Des membres de la garde nationale étaient prêts à intervenir même s'ils n'ont finalement pas été mis à contribution. Quant au gouverneur du Wisconsin, il a appelé à l'apaisement. Ces dernières semaines, aux États-Unis, des policiers ont été pris pour cible dans plusieurs endroits, notamment à Dallas et Baton Rouge, dans un contexte très tendu après la mort de plusieurs Noirs victimes de violences policières.
À New York, la police a annoncé hier soir qu'un suspect était en détention en raison des indices accumulés après le double meurtre d'un imam et de son assistant en pleine rue samedi près de leur mosquée du Queens. Le responsable de l'enquête n'a pas identifié le suspect, précisant simplement qu'il s'agissait d'un hispanique de 36 ans habitant le quartier difficile de East New York à Brooklyn.
Les forces kurdes irakiennes ont pris 10 villages au groupe État islamique à la faveur d'une offensive de 2 jours près de la ville septentrionale de Mossoul, le dernier fief majeur de l'organisation djihadiste en Irak, selon des responsables hier. Les Peshmerga, qui sont appuyés par l'aviation et des conseillers de la coalition internationale dirigée par les États-Unis, ont mené ces derniers mois plusieurs offensives qui leur ont permis d'avancer en direction de Mossoul. Cherchant également à resserrer l'étau autour de Mossoul, les forces fédérales irakiennes se préparent à avancer par le sud en remontant la vallée du Tigre.
11 personnes, dont un membre du personnel de Médecins sans frontières, ont été tuées et au moins 19 blessées dans un raid aérien ayant touché hier un hôpital de la ville d'Abs au Yémen. C'est ce qu'a annoncé MSF. La rébellion yéménite avait auparavant fait état d'un bilan de 6 morts et 20 blessés, évoquant des raids menés par l'aviation de la coalition arabe alliée du pouvoir dans cette zone contrôlée par les rebelles dans le nord du pays.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
À présent, le journal des Jeux Olympiques sur VOA Afrique avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
David Rudisha est toujours le roi incontesté du 800 mètres.
Ah oui, le champion olympique en titre a gardé sa couronne en remportant la finale du 800 mètres à Rio. David Rudisha, intouchable en 1 minute 42 secondes et 15 centièmes, il remporte un deuxième sacre olympique d'affilée. On reparle de cette course avec Jean-Roger Billon.
C'est le jeune Kenyan Alfred Kipketer qui a pris la tête aux 150 mètres de cette finale avec un passage canon aux 400 mètres en 49 secondes 23 centièmes. Rudisha a pris l'initiative au milieu de la ligne opposée pour creuser l'écart. Le Kenyan David Rudisha a conservé le titre sur 800 mètres et l'emporte en 1 minute 42 secondes 15 centièmes, nettement devant l'Algérien Taoufik Makhloufi, 1 minute 42 61 centièmes et le jeune Américain, 1 minute 42, 93 centièmes. Champion olympique du 1500 mètres à Londres, Makhloufi a mis à profit sa résistance et son finish pour s'emparer de la médaille d'argent avec un nouveau record national. Rudisha, âgé de 27 ans, avait conquis l'or à Londres en prenant la course à son compte pour améliorer son record du monde, 1 minute 40 secondes, 91 centièmes. Il a prouvé à nouveau sur la piste brésilienne qu'il était bien le roi incontesté du 800 mètres depuis 4 ans.
Autre médaille pour le Kenya.
Nouvelle médaille pour l'Afrique, celle-là elle est en argent. La Kenyane Ivine Jepkemoi a terminé deuxième de la finale du 3000 mètres au steeple. Et on peut même dire, Idrissa, que le Kenya a officieusement gagné l'épreuve puisque c'est la Kenyane Ruth Jabet qui court sous les couleurs du Bahreïn qui a remporté la course en 8 minutes 59. C'est la deuxième performance mondiale de tous les temps.
Autre médaille de bronze, celle-là pour la boxe marocaine.
En boxe chez les Walter, 69 kilos, Mohamed Rabihi, le Marocain, échoue en demi-finale, battu par un boxeur ouzbek. Mais en boxe, les demi-finalistes malheureux obtiennent chacun une médaille de bronze. Chez les poids mouches, l'Algérien Mohamed Flissi s'est qualifié pour les quarts de finale en battant au point le Bulgare Daniel Asenov. Dans la catégorie des moins de 75 kilos, l'Égyptien Ossam Hussein Bakr Abdin s'est fait sortir en quart de finale par le Mexicain Misael Rodriguez.
Les autres résultats de ce lundi.
Marie-Josée Talou, meilleur temps des séries du 200 mètres pour l'Ivoirienne en 22 secondes 31 centièmes. Ça passe aussi pour sa compatriote Muriel Aouré en 22-52, qualifiée aussi pour le continent la Nigériane Blessing Okagbare. Fin des Jeux Olympiques pour les basketteurs nigérians alors qu'ils pouvaient encore espérer la qualification après leur victoire face à la Croatie. Ils se sont finalement inclinés 86-69 hier face au Brésil. Dernier de leur groupe, les D-Tigers ont subi 4 défaites en 5 matchs. Ils sortent du tournoi olympique par la petite porte. En handball, les Égyptiens auraient pu se qualifier pour les quarts de finale en battant l'Allemagne lors de leur dernier match de poule. Mais les Pharaons se sont inclinés hier 31-25. Ils terminent donc 5e de leur groupe. Dernière de son groupe de qualification avec un petit point. La Tunisie, elle aussi, rentre chez elle. Dernière défaite hier face à la Croatie, 26-41. Et puis avec 377 kilos soulevés, l'Égyptien Gaber Mohamed s'est classé 12e de l'épreuve d'haltérophilie des moins de 105 kilos, bien loin des 431 kilos soulevés par le médaillé d'or, l'Ouzbek Ruslan Nouroudinov.
À suivre ce mardi.
Béatrice Alice Kamuchanga, 19 ans, originaire du Nord Kivu, sera alignée sur 5000 mètres dames. Son objectif pour sa première compétition majeure n'est pas d'aller chercher une médaille, mais plutôt de battre son record national sur la distance. On l'écoute.
Quand on va faire la compétition, je pense qu'on va bien trouver des bons résultats. C'est ma première grande compétition et je pense qu'avec Dieu, tout va passer bien. Je vais battre le propre record national.
Béatrice Alice Kamuchanga au micro de Thierry Kambundi de Top Congo FM qui se trouve à Rio pour notre station partenaire à Kinshasa. Et on rappelle Idrissa qu'au classement des médailles, les États-Unis sont toujours premiers devant la Grande-Bretagne et la Chine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
5 universités africaines figurent dans les 500 meilleures universités du monde dans le classement 2016 du cabinet Shanghai Ranking Consultancy. Il s'agit de l'université du Caire en Égypte et de 4 autres sud-africaines, les universités de Cape Town, du Witwatersrand, de Stellenbosch et du KwaZulu-Natal. En Côte d'Ivoire, la société Agronomix démarre dans les tout prochains mois un chantier de 4000 logements dans le village balnéaire d'Assouindé. Le coût de construction de la future cité Bénéné, à une heure d'Abidjan, est estimé à 137 milliards de francs CFA. Le complexe comprendra des écoles, des centres médicaux et un centre commercial. La fraude téléphonique au Gabon a généré 13 milliards de francs CFA de pertes financières en 2015. 15 personnes ont été arrêtées à la suite de missions de contrôle. Pour le président de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, Lin Mombo, le déploiement des actions efficaces de lutte contre la fraude téléphonique et l'importation illicite de terminaux de télécommunications au Gabon est plus que nécessaire, a-t-il dit.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, ce revirement politique que nous vous annoncions hier et qui fait maintenant des remous dans le pays. La décision ce week-end du MNSD, le Mouvement National pour la Société de Développement, de quitter l'opposition pour se rallier au camp présidentiel. Depuis, une fronde a vu le jour au sein du parti de l'ancien président Mamadou Tandja. Pour rappel, le MNSD Nassara fait partie de la COPA 2016, la coalition de l'opposition, qui conteste jusque-là la réélection du président Issoufou lors de la présidentielle de mars dernier. Issoufou Tamboura est le secrétaire à l'information du MNSD, Nassara, et il fait partie de ceux qui contestent la décision de ce week-end. Au micro de Bagassikoura, Issoufou Tamboura.
D'abord, la manière dont ça a été fait, c'était antidémocratique, mais personne n'était au courant. Le président du MNSD, avec des individus, ont préparé cela en cachette et ont convoqué une réunion du bureau politique sans ordre du jour, malgré une rumeur qui courait. Nous sommes partis et on nous a dit qu'il faut choisir entre aller dans un gouvernement d'union nationale ou ne pas aller. Et il y a eu un débat. Et dans le débat, on a compris que des gens se sont préparés, des gens ont été soudoyés par quelque voie que ce soit. Et en tout cas, il n'y a pas eu d'argument. Le seul argument qui était sorti, c'est que donc le MNSD a fait 6 ans d'opposition. Le parti est fatigué, donc il faut aller à la mangeoire. Il faut aller chercher des postes, des emplois qu'on ne mérite pas. Il faut aller chercher des marchés.
On dit qu'il y a eu un vote. C'est quand même démocratique, non?
Non, le vote, ce n'est pas un vote. Parce que je vous ai dit que des gens ont été soudoyés.
Soudoyés, vous voulez dire que les gens ont été payés?
Oui, je pense que d'une manière ou d'une autre. On a dit quels sont ceux qui ne sont pas d'accord. Il y a 4 personnes qui sont levées. Et on a dit dans la salle, il y a 148 personnes, donc les restes sont d'accord. Vous voyez bien que ce n'est pas un vote.
Ça veut dire que vous êtes minoritaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas se soumettre à la majorité écrasante d'ailleurs?
Non, on n'est pas minoritaire. Le bureau politique compte 300 personnes. Il y a eu 148 personnes qui sont venues. Et parmi les 148 personnes, il y a beaucoup qui étaient fâchés, qui sont partis, parce qu'ils ont trouvé ça honteux qu'un parti politique comme le MNSD, qui a passé 6 ans à traiter un régime de voleurs, de violateurs de la Constitution, de tous les maux d'Israël, et un beau matin dit qu'il va dans ce pouvoir-là. Donc, c'est deux choses l'une. Oui. Ou c'est des menteurs, ou c'est des voleurs.
Idé Adamou, le secrétaire adjoint à l'information, dit que le MNSD n'est pas fait pour rester dans l'opposition éternellement.
Il vient de confirmer ce que je dis. Mais l'opposition est une posture. C'est une posture politique. Mais l'opposition, c'est un vote qui le fait. Mais si, après le vote, on est dans l'opposition, mais alors maintenant, il faut courir pour aller à une certaine mangeoire parce qu'on veut manger. Vous voyez que les idéaux sont tombés. Donc, il n'y a plus de parti politique.
Alors, que faites-vous de l'argument qui dit que c'est pour l'intérêt national? Le Niger souffre et il faut rester unis autour du gouvernement.
L'intérêt national, vous savez qu'en 2013, il y a la moitié du parti qui est parti. Donc, ils ont fait, c'est un argument bateau, dire qu'on va aller pour la construction nationale. Mais on peut construire, participer à la construction nationale en étant à l'opposition. Et d'ailleurs, c'est ça le rôle de la démocratie, une majorité qui gouverne et une opposition qui veille.
Issoufou Tamboura, secrétaire à l'information du MNSD, Nassara.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Le Cameroun a arrêté plusieurs membres des groupes d'autodéfense dans l'extrême nord du pays. Les autorités craignent que Boko Haram cherche à les retourner contre leur propre communauté. Michel Joseph.
Midji Yawa Bakari, gouverneur de l'extrême nord du Cameroun, ne cache pas ses craintes.
Les dispositions ont été prises pour que les mauvais grains ne s'infiltrent pas, pour gâter le bon travail qui a été fait, pour que les membres du comité de vigilance soient de bonne moralité. Il faut toujours qu'il y ait un cadre de réflexion pour amener les uns et les autres à travailler en synergie pour savoir dans quelle direction avancer. Ce que nous attendons d'eux, c'est la dénonciation, l'information pour permettre une intervention en temps réel.
Le gouverneur Bakari ne précise pas combien de suspects ont été arrêtés et ne donne pas non plus d'exemple de leur coopération présumée avec Boko Haram. Cependant, la presse locale rapporte qu'au moins 70 personnes ont été arrêtées par la police dans une douzaine de villages le long de la frontière et la répression continue. Le mois dernier, Amnesty International a accusé le Cameroun de procéder à des arrestations arbitraires et de se livrer aux abus des droits de l'homme sur des partisans supposés de Boko Haram. Pour Amnesty, plus de 100 personnes ont été condamnées à mort depuis 2015 dans des procès que l'association qualifie d'injustes. Le gouvernement a rejeté ce rapport, le qualifiant de tendancieux. Abdul Garba, leader d'un groupe d'autodéfense à Kolofata, à la frontière avec le Nigeria, affirme que les insurgés promettent de meilleures paix aux jeunes et essaient d'utiliser certains d'entre eux comme espions.
Vous pouvez vraiment nous envoyer les denrées alimentaires et les matériels pour le travail. Nous allons redoubler l'effort pour travailler. Nous allons nous mobiliser, nous allons parler à tout le monde pour que tout le monde s'implique dans le travail comme il faut.
Ces groupes d'autodéfense ont aidé les militaires par des patrouilles dans les villages et coins les plus reculés. C'est un travail difficile et dangereux pour lequel il faudrait plus de formation, comme en témoigne Inoussa Ama, membre d'un groupe d'autodéfense à Kolofata.
Vers 21h qu'on commence le travail, jusqu'à 4h. Parmi nous, il faut les gens qui nous donnent aussi la formation. On travaille nuit et jour.
Yaoundé estime que la capacité des terroristes à mener des attaques à grande échelle a été fortement réduite, si bien qu'ils essaient maintenant de refournir leur rang en recrutant parmi les jeunes vulnérables au Cameroun.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Centrafrique, où l'épidémie de choléra sévit toujours, une mission d'évaluation conduite par la ministre de la Santé, le docteur Fernande Diengbot, a séjourné du 6 au 16 août dernier à Ndjoukou, localité durement touchée, qui est située à une centaine de kilomètres au nord de Bangui, la capitale. Selon les autorités sanitaires, on a décelé de nouveaux cas dans 4 des 8 arrondissements de Bangui. Félix Yepa-Sizembrou a pu joindre le chargé des programmes à l'OMS à Bangui, le docteur Richard Fotsing.
Nous avons constaté que les populations n'ont pas vraiment accès à l'eau potable. Il y a un centre de santé qui permet aux populations d'avoir accès aux soins, qui a des quantités de médicaments qu'il faut, dotés par l'OMS, mais qui a un personnel qui est encore peu qualifié. Et les activités de mobilisation sociale étaient menées à minima. Certaines populations n'étaient pas toujours informées de l'existence de l'épidémie. En réponse à cette situation, il y a plusieurs actions que nous avons menées, notamment des réunions de plaidoyer avec les leaders d'opinion, des réunions de sensibilisation avec les populations, la diffusion des messages à travers les autorités religieuses, des sensibilisations dans les lieux de culte et dans les marchés. Et nous avons également remis des prospectus aux populations et posé des affiches pour permettre aux populations d'avoir accès à la bonne information. Et nous avons profité de ces séjours pour évaluer les capacités de prise en charge du centre de santé des Tours.
Y a-t-il eu de nouveaux cas, docteur, autrement dit, de nouveaux cas de décès aussi dans la région, à Ndjoukou?
Entre le 6 et le 14 août, il y a eu 23 nouveaux cas enregistrés dans la formation sanitaire, parmi lesquels 3 provenaient de la RDC. Mais aucun décès n'a été enregistré parmi tous ces cas, parce que le centre de santé dispose des médicaments et le personnel est en alerte. Ils sont bien formés pour pouvoir prendre en charge correctement les cas.
Et qu'en est-il pour la capitale Bangui, où on a décelé aussi de nouveaux cas de maladie?
Bon, au niveau de Bangui, justement, on a enregistré plusieurs cas de diarrhée aiguë, parmi lesquels certains ont été confirmés comme étant des cas de choléra. Et actuellement, il y a 4 arrondissements suivis dans la ville de Bangui où on a enregistré des cas de diarrhée.
Donc, le docteur Fernand Djengbot séjourne du 6 au 16 août à Ndjoukou, localité durement touchée, située à une centaine de kilomètres au nord de Bangui. L'interview était avec le docteur Richard Fotsing, chargé de programme à l'OMS à Bangui.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Présidentielle américaine 2016, le candidat républicain Donald Trump a présenté hier dans l'Ohio les grandes lignes de son plan de lutte contre le groupe État islamique. Son discours était très attendu après avoir affirmé la semaine dernière que les politiques mises en œuvre par le président Obama et la candidate démocrate Hillary Clinton ont favorisé l'émergence de ce groupe terroriste. Les précisions de Chérubin Gaby Dorsil.
S'exprimant à Youngstown, Donald Trump a expliqué sa conception de ce qu'il appelle le réalisme en politique étrangère. Selon lui, les États-Unis doivent déclarer qu'ils sont en conflit idéologique avec l'islam radical, une position rejetée par l'administration Obama, qui estime qu'elle ferait le jeu des militants islamistes. Son plan de destruction des militants du groupe État islamique est axé sur la coopération entre les États-Unis et tout pays poursuivant le même objectif, même dans le cas où il y aurait des différends avec un tel pays. Nous ne pouvons laisser ce mal continuer, ajoutant
« And Obama and Clinton gave it new life and allowed it to spread all across the world. »
Les politiques désastreuses de Hillary Clinton ont propulsé le groupe État islamique sur la scène mondiale. Aujourd'hui, la Libye est en ruine, le chaos règne en Irak, a souligné le candidat républicain. Donald Trump a dit que s'il est élu, il convoquera un sommet des leaders mondiaux pour élaborer un nouveau plan en vue d'écraser et détruire le groupe État islamique. Il s'est engagé à travailler avec la Russie et l'OTAN à cette fin. Enfin, M. Trump a dit qu'il bloquera l'accès des groupes terroristes aux réseaux sociaux qu'ils utilisent comme moyen de recrutement.
Le candidat républicain a aussi évoqué d'autres dossiers, notamment l'immigration.
Donald Trump s'est engagé à imposer un filtrage extrêmement poussé des migrants s'il remporte en novembre à la Maison-Blanche.
The time is overdue to develop a new screening test.
Il n'est que temps de mettre en place de nouveaux contrôles face aux menaces auxquelles nous sommes confrontés. Je les qualifierais de filtrage extrême, a-t-il déclaré.
I call it extreme, extreme vetting.
Le candidat républicain se propose de soumettre les candidats à l'immigration à un véritable examen d'admission aux États-Unis. Ces personnes répondraient à des questions portant, par exemple, sur leur point de vue concernant la liberté religieuse, l'égalité entre les genres, les droits des homosexuels. Il s'agit de vérifier si elles soutiennent la tolérance et le pluralisme propres à l'Amérique, a expliqué Donald Trump. Son adversaire Hillary Clinton, qui battait campagne hier lundi en Pennsylvanie en compagnie du vice-président Joe Biden, s'est moqué de l'expérience de Donald Trump en matière de sécurité nationale.
But you know, sometimes he says he won't tell anyone what he'll do because he wants to keep his plan, quote, secret. And then it turns out the secret is he has no plan.
Il n'est pas du tout qualifié pour diriger les États-Unis, a-t-elle déclaré.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebuga et Anne Albertson. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.